Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, eh bien, comme chaque année depuis déjà plusieurs années, au courant de ce début de mois d'octobre, nous rencontrons Alice Willox. Alice Willox qui est la coordinatrice, une des coordinatrices de la programmation du Festival des Libertés, qui est également coordinatrice sociopolitique à Bruxelles Laïque. Donc voilà, l'occasion avec elle est bien de faire le focus sur ce Festival des Libertés édition 2025 qui court jusqu'au 18 octobre. Alice Willox, on l'écoute tout de suite. Alice Willox, Festival des Libertés, édition 2025. C'est une édition un peu particulière ?
C'est une édition dans la continuité des autres, peut-être un petit peu particulière parce que cette année la thématique est celle du dialogue et que finalement on nous renvoie souvent qu'on a une thématique en plein dans l'actualité et là on pourrait dire que c'est peut-être une thématique qui est à contre-courant quelque part puisque on a eu l'envie de plutôt que d'affirmer plutôt une posture de dialogue justement en partant du principe que eh bien, même si le rapport de force est nécessaire et qu'on n'a pas tous et toutes la même place dans le débat public, c'est justement d'affirmer quelles sont ou d'interroger quelles sont les conditions d'un vrai dialogue démocratique, d'un vrai dialogue interpersonnel, et puis peut-être d'inviter à considérer les interlocuteurs et interlocutrices qu'on a devant soi comme des personnes qui parlent de leur propre éthique aussi, et voilà, de se laisser interroger. Et puis, du coup, on a aussi, sur une série de thématiques, à la fois la question de qui a accès à la parole, quelles sont les bonnes conditions pour discuter, pour dialoguer, et puis aussi des sujets un peu plus conflictuels, comme la question du dialogue social, par exemple, sur lesquels on va amener du débat contradictoire, au sens débat contradictoire, sur la scène du Festival des Libertés, ce sur quoi on a un peu moins l'habitude, sans doute, mais avec l'ambition d'essayer de s'attaquer à des questions en les rendant intelligibles, en tout cas, et de pas, c'est le vrai défi sur la question du dialogue, évidemment, et du débat, c'est de pas rajouter du bruit au bruit, mais plutôt de donner quelque chose d'intelligible au public autour duquel il peut après, il ou elle peut se former sa propre opinion.
Eh bien, Alice, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Je trouve que le dialogue est très fort d'actualité, parce qu'on se retrouve pour le moment dans une société où de plus en plus le pouvoir assoit son emprise et le dialogue n'a plus de place. Mm-hmm. Donc justement, vous réagissez très bien à l'actualité.
Oui, en effet, on en parle aussi, les attaques à l'état de droit, puisque, il faut le rappeler, les institutions de l'état de droit, ce sont des institutions de dialogue et d'arbitrage démocratique. Donc on est dans l'essence même de la question démocratique et de la question contemporaine. Là, il y a des attaques qui sont faites un peu partout, en Occident aussi, il ne faut pas l'oublier, en Belgique également, quand on voit consortium de partis très à droite, voire à l'extrême droite, qui décident de remettre en cause publiquement la Cour européenne des droits humains. Voilà, ça pose quand même question, c'est-à-dire oui, ce sont des partis élus démocratiquement dans la plupart des cas, mais qui eux-mêmes remettent en question les institutions dont certaines leur ont permis d'être élus aussi. Donc en effet, on est en plein dans l'actualité, je veux dire, mais ça peut paraître au premier abord, donc merci d'en effet avoir vu l'intérêt de proposer cette thématique, mais d'un premier abord, dans un monde comme ça qui est tellement crispé et cristallisé et où les opinions sont fortes, mais aussi l'expression des opinions et la polarisation de ces opinions est très renforcée, notamment par les réseaux sociaux. L'algorithme, même l'architecture des réseaux sociaux et des moyens de communication aujourd'hui favorise comme ça les clashs et les polémiques, etc. Les peu de temps finalement au dialogue en réalité. Et donc on a des blocs qui s'affrontent là. Donc en effet, c'est tout à fait pertinent, mais on s'imagine, nous, que c'est une réception thématique qui peut d'un tout premier mouvement interroger, de dire mais là il est temps en fait de se battre pour nos droits, il n'est pas le temps de discuter. Donc voilà, il y a un petit pas de côté là-dessus, comme on aime bien le faire au festival, mais en effet derrière il y a clairement une réaffirmation d'une nécessité démocratique qui est celle du dialogue.
Est-ce que c'était un besoin au sein de l'équipe de peut-être passer à une thématique, je vais pas dire plus douce, mais qui s'ouvre plus à l'autre, après des éditions où on a parlé du contrôle, on a parlé de la police, on a parlé de toute une série de faiblesses de notre état de droit aujourd'hui, l'envie de passer à du constructif.
Oui, je crois qu'il y avait l'envie de la part de l'équipe aussi dans un mouvement un peu de individuel aussi, enfin d'individu, de collectif d'individu quoi, de dire ben on a envie de proposer quelque chose en effet de constructif, enfin d'affirmatif, moins revendicatif, même si on a toujours voilà nos valeurs bien sûr qui nous portent et nos engagements, ça semble important, mais on le voit d'ailleurs depuis quelques années, la programmation du Festival des Libertés, ben voilà, est beaucoup plus remise en question, ponctuellement quoi. C'est-à-dire qu'on a, et c'est bien normal, et on est très content et contente d'avoir des retours du public sur nos choix. D'ailleurs, enfin moi personnellement, je le prends même plutôt comme un compliment, c'est-à-dire que ça veut dire que les gens attendent quelque chose du Festival des Libertés. Donc voilà, je trouve ça plutôt chouette de dire que c'est un festival qui est investi par son public. Avec des dérives aussi quoi, parfois, enfin des dérives, en tout cas avec des expressions qui sont parfois loin de la factualité. Il faut le dire, c'est pas très courant, mais enfin ça arrive et du coup. Ça, c'est de plus en plus complexe de programmer des choses publiques quand on revendique aussi un certain engagement. Alors je dis ça avec beaucoup de prudence, mais c'est vrai que ça interroge aussi sur ce qui se passe autour des communications dans les réseaux sociaux, de ce qu'on nous renvoie. C'est parfois inconfortable et parfois c'est bien aussi. Donc le défi en fait, c'est à la fois de prendre ce qui se dit, mais aussi d'interroger voilà la manière dont les individus et individus se s'échangent des idées. On en parle dans certains débats, d'ailleurs on a un débat qui s'appelle l'autre a toujours tort qui est donc bien sur un versant un peu interindividuel, et on voit que bon, et c'est en fait c'est une dynamique sociale assez connue hein, de partir du principe que ben voilà qu'on est dans la raison. Mais et ça, c'est une vraie démarche, je pense, libre exaministe aussi, de se dire, bon, qu'est-ce que me dit l'autre ? Est-ce que je peux désaffectiser l'endroit auquel je reçois ça et un peu poser les choses sur la table et voilà, essayer de déplier comme ça les idées, malgré que le climat nous invite plutôt à l'affect et parfois à une indignation une recherche de pureté comme ça qui est inaccessible en fait. C'est plus intéressant de se laisser interroger probablement que de maintenir à tout prix, coûte que coûte, ses choix et ses idées préconçues quoi.
Alors, vouloir travailler autour de la thématique du dialogue à l'issue Lox, c'est bien beau, mais je me demande si quelque part c'est pas un des sujets les plus vastes que vous ayez eu à traiter au cours de toutes ces années. Alors comment est-ce qu'on prend ça ? Par quel bout, par quel fil on prend ce dialogue ?
Alors je le disais, on part du principe que le Festival des Libertés est un lieu de dialogue, hein, et par sa programmation aussi. Juste un petit détour avant de parler des débats sur les documentaires qui sont... Pour le coup, la démarche documentaire, d'ailleurs on en a fait un débat de cette question en partenariat avec le CVE, le Centre Vidéo de Bruxelles, là, dans le cadre de leurs 50 ans, c'est un débat qui se tiendra le mercredi 15, autour de est-ce qu'on peut dialoguer à travers un documentaire ? Qu'est-ce que c'est que cette démarche ? Qu'est-ce qu'on dit au monde ? Qu'est-ce qu'on adresse au monde ? Comment est-ce qu'on s'engage ? Voire cinéma militant, cinéma engagé, de quoi ça parle exactement ? Donc le documentaire... par son témoignage, qui est aussi qui a quand même une ambition de, en tout cas le documentaire que nous on programme, de dire quelque chose du monde. C'est une manière de dialoguer avec le monde, parce qu'on est quand même sur des situations qui se passent dans le monde entier, dans des endroits dont on a parfois peu de conscience ou de connaissance. Donc voilà, toute la programmation du documentaire, on peut aussi la considérer, je pense, et donc chaque année, comme un dialogue entre Bruxelles et le reste du monde, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, sur les débats, oui, je le disais, on traite un peu des conditions du débat. Donc sur, j'évoquais la dimension interpersonnelle, sur l'autre a toujours tort, mais je pourrais aussi parler du débat droit et diplomatie. Où est-ce qu'on en est au niveau mondial sur la question diplomatique? Et bien évidemment que un des exemples incontournables, c'est la question du génocide qui est en cours à Gaza et de qu'est-ce qui se passe au niveau diplomatique. C'est assez incompréhensible d'un point de vue très spontané et humaniste. C'est assez incompréhensible. Donc, on va essayer de se pencher un petit peu là-dessus. On va aussi parler de poser des questions un petit peu, on va dire, qui semblent un peu aveugles. On va se poser la question, par exemple, de tiens, et si les enfants avaient, si on avait le droit de vote dès la naissance, qu'est-ce que ça donnerait? Si les enfants pouvaient voter, qu'est-ce que ça donnerait? Donc ça, c'est une proposition un peu audacieuse, mais à partir de laquelle on peut quand même penser la position de la citoyenneté des moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont à dire en fait du monde? Pourquoi? Voilà, ils sont quand même très silencieux l'espace public, et donc on va s'intéresser un peu à ce que ça donnerait une société où on avait le droit de vote dès la naissance. On va aussi se poser la question de la place dans les... Ah oui, je voudrais aussi, pardon, mentionner le débat Voix sans tribune qui se tiendra le vendredi 17, si je ne me trompe pas, et qui, là, est une véritable tribune aux personnes qui sont invisibilisées des débats, les plus invisibilisées. Alors, on peut parler de personnes sans papier, de travailleuses du sexe, d'usagers, usagères de drogue. Voilà, donc là, on va un petit peu se poser la question de, en fait, comment est-ce qu'on crée un dialogue démocratique à partir du moment où, dans la société, il y a des personnes qui n'ont tout simplement pas le statut de citoyen, si on le prend au sens formel. Donc là aussi, et puis sur la place, on va aussi parler par exemple de la place des hommes dans le féminisme. C'est une question qui revient pas mal et en fait qu'on peut élargir, hein, la place des personnes non concernées entre guillemets dans les luttes minoritaires. Donc là, on a aussi un panel assez intéressant pour en discuter. Je vous fais pas le tour des panels, mais il y en a pas mal, et ça, ce sera un débat sur lequel on va avoir des contradictions quand même, parce que y a un vrai enjeu politique à l'intérieur de ce mouvement qui est assez intéressant. Il y aura aussi de la contradiction évidemment sur le débat dialogue social, dans lequel on va un peu se faire confronter les grands enjeux du dialogue social actuel, très actuel, autour de la question du travail et du chômage, etc., entre des partisans des unes et des autres places et des autres orientations politiques, on va dire. On va aussi s'intéresser donc chaque année on a un procès fiction. Cette année on parle des violences sexuelles et sexistes, donc des VSS, en l'occurrence des violences conjugales, et donc on va avoir un procès fiction dans ce cadre-là qui va interroger. Il y a un grand débat, on va dire, dans le milieu, y compris dans le milieu féministe et dans le milieu judiciaire, qui est le constat d'une situation catastrophique en termes de justice pour les femmes victimes de violences, pour les femmes et pour les hommes. Mais voilà, dans le cadre des VSS, comme on dit, les femmes sont surreprésentées, hein, et en tout cas les hommes sont très nettement surreprésentés comme étant auteurs de violences. Ça, c'est assez clair dans les chiffres. Et en même temps, une critique carcérale assez importante et grandissante. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on fait des hommes violents? Est-ce qu'on les met en prison à partir du moment où on critique radicalement la prison comme un lieu de réparation? Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre voie? Eh ben, notamment, il y a la justice restaurative qui est une justice de dialogue. On pourra en parler à l'occasion du procès fiction. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais enfin, il sera question de voter, évidemment, comme d'habitude, à la fin. Et puis, cette année, comme l'année passée, on a deux représentations qui sont déjà complètes, hein. Mais donc c'est complet sur réservation. J'invite quand même tout le monde à venir se présenter sur place le jour J parce que on a toujours pu faire rentrer la vingtaine de personnes qui se présentaient parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas malgré leur réservation. Donc n'hésitez pas à venir quand même. On ne venait pas à 150, mais vous qui m'entendez, venez parce que voilà, ce sont vraiment des ça c'est une formule quand même qui a lieu chaque année au festival et qui ben, pour le coup a plusieurs vertus, dont celle de sensibiliser à ce que c'est la justice, en fait, comment ça se passe, un procès, quels sont les intérêts en jeu qui sont parfois très très divergents, et puis comment est-ce qu'on se positionne, quoi, en face aux plaidoiries, aux expertises, etc. Donc voilà, ça c'est petit détour par le procès fiction. On aura aussi du théâtre. Il y a Justice, la pièce de théâtre de Clément Papachristou, qui est au National et qui se prolonge une date au festival, alors qu'il y a une pièce de théâtre tout à fait originale, parce que disons que c'est une pièce de théâtre qui défend, oui, parce qu'il y a un plaidoyer, on peut le dire, qui défend le droit de personnes, en l'occurrence de personnes atteintes du syndrome de trisomie 21, à être jugées responsables de leurs actes. Et donc, ça nous met dans une position, alors très très, c'est très étonnant. On est pris dans une fable comme ça, un petit peu délirante, un petit peu folle. Et puis, au fur et à mesure du spectacle, on se rend compte de toutes les implications qu'amène la mise sous tutelle, hein, pour le dire en gros. Et puis jusqu'où est-ce qu'on est responsable de ces actes, même si ce sont des actes criminels, par exemple. C'est un très beau plaidoyer, très très original, très touchant, parce qu'il y a des acteurs porteurs de trisomie 21 qui sont sur scène. Et donc voilà, c'est une proposition tout à fait originale du festival, dont on est très content de l'avoir, pas du festival, du national, donc on est très content d'accueillir aussi dans le cadre du festival. Et puis faire parler les archives des non-alignés, qui est une pièce de théâtre, la documentaire plus autour des archives d'ex-Yougoslavie. Donc là, on va aller un petit peu chercher du côté de la documentation historique, qu'est-ce que ça raconte les archives voilà. Et puis on a aussi une autre expérience dans laquelle on a intégré un spectacle également, puisque c'est Dialogue aux intersections. Et en fait, dedans, on retrouve la pièce de théâtre de Siham Adiwi, Exhibit A, qui parle de son histoire, en fait, et du rapport à la. C'est un spectacle vraiment qui fait le lien entre un parcours individuel et l'état de la société, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique dans une famille issue de l'immigration précaire, avec des difficultés, de la criminalité et aussi un grand silence. Justement. Donc, la question, c'est quelles sont les brèches de dialogue aussi dans les familles. C'est un des fils qu'on a pu tirer de ce spectacle. Voilà, j'ai un peu fait le. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Voilà un échantillon de comment est-ce qu'on déploie cette thématique. Très longue réponse.
Mais donc, si j'entends bien ce que vous expliquez, Alice, ça veut dire que c'est. En tout cas, si je prends les derniers exemples que vous citez, le dialogue au sein de la justice est quand même quelque chose qui ressort très fort dans cette édition-ci. Bah, le procès fiction, il y en a chaque année, mais enfin voilà, les spectacles tournent autour de ça. C'est un heureux hasard.
Oui, c'est plutôt un heureux hasard, mais c'est vrai que quand on pense au dialogue, bon, je dirais que c'est même plus largement que ça l'état de droit qui serait le fil finalement pour matérialiser cette question du dialogue. C'est un fondamental de la laïcité, évidemment, la défense de l'état de droit. Le Centre d'Action Laïque a publié plusieurs cartes blanches ces derniers mois pour réaffirmer, que ce soit sur plusieurs aspects, vraiment cette notion d'état de droit en Belgique, mais aussi à l'international, hein, nouveau, hein, des zones de conflits, de guerres, de génocide dans lesquelles il y a un non-respect total de l'état de droit. Et donc, en effet, ça implique aussi la justice, c'est un des lieux les plus matérialisables du dialogue démocratique, mais oui, ça serait ça plutôt, oui, en effet.
Comme quoi, parfois, hein, tout se met en place. Alors ça, c'est pour la partie plus spectacle. Alors, vous le disiez aussi, il y a toujours au Festival des Libertés énormément de débats. Un débat, c'est un dialogue, par définition.
Oui. Un débat, c'est un dialogue, d'autant plus que le public du Festival des Libertés est toujours très participatif. Il est invité à participer et c'est un public qui n'hésite pas à prendre la parole. Il y a toujours, je dirais, probablement un tiers de 2 heures qui est consacré aux échanges avec la salle. Donc, il y a, c'est pas cosmétique, anecdotique. Donc c'est voilà, et puis c'est un public qui n'hésite pas à interpeller aussi et à se lever. Je crois que c'est assez propre au public du festival. Et donc, on a cherché cette année, même aussi en dehors des thématiques, à tirer des fils de controverse, quoi. De dire comment est-ce qu'on peut problématiser la question pour montrer que voilà, qu'il y a de la nuance qui ne doit pas être frontale nécessairement, mais qu'on peut. Et puis d'ailleurs, on peut aussi douter. On peut douter sur des questions. On peut, je reprends cette question de la place des hommes dans le féminisme. Sincèrement, moi personnellement, quand je vois des arguments de part et d'autre, j'ai pas de réponse univoque. Et puis dans certains documentaires, on peut aussi le voir. Hein, on a un documentaire d'une ressortissante russe, A Little Grey Wolf Will Come. C'est un documentaire fait maison. Comme on dit, donc, de l'image privée, on va dire, d'une journaliste russe du régime. Et mais le documentaire prend à peu près 8 ans et on la voit se questionner et se demander ce qu'elle fait. On la voit être interpellée par sa fille qui devient adolescente. Bon, il faut savoir que la famille aussi bouge entre New York et, enfin, voilà, il y a une vie un peu internationale. Et puis remettre en question, d'abord ses croyances, et puis ses pratiques, et puis sa place de journaliste et de femme. Enfin, c'est très, très interpellant. Voilà, donc ça, c'est un fil quand même qui se... Et puis, bon, c'est pas le seul, hein. Je crois que vous mentionniez, avant qu'on enregistre le titre du premier documentaire qui s'appelle Coexistence My Ass, qui est en effet un documentaire qui suit une stand-upeuse israélienne qui est farouchement opposée au régime israélien. Et qui en a fait de l'humour. Et puis c'est donc un documentaire très critique, au cas où ça serait pas clair, évidemment très critique vis-à-vis du gouvernement israélien, très très clairement soutenant du peuple palestinien. Mais on voit comment elle se débat. Et puis on voit l'avant et l'après cet octobre. Je vous raconte pas tout, mais il est très troublant, ce documentaire. De voir même dans les positions les plus nuancées qu'on essaye d'avoir, comment c'est parfois pas possible. Enfin, il y a quelque chose de il est assez unique. Voilà, ce documentaire. C'est pour ça aussi que on a choisi de le mettre en ouverture de cette édition, parce qu'il nous semblait représenter justement la complexité parfois des positions sociales qu'on a. Et puis voilà, c'est cette soirée d'ouverture, elle a vraiment, je trouve que dans cette soirée, on retrouve beaucoup la thématique du festival en une soirée. Il y a Coexistence My Ass, il y a un débat sur le droit et la diplomatie et la question de l'armement. Il y a Oxmo Puccino, qui est un grand parolier dans une posture justement très de dialogue qui sera en grande salle. Et puis il y a la DJ Sama Abdouladi, qui est une DJ palestinienne, sans doute la DJ palestinienne la plus connue au monde de DJ techno, hein, je veux dire, et qui va, à mon avis, attirer beaucoup de monde et qui va venir clôturer cette soirée d'ouverture. Donc, voilà, je pense qu'on trouve un peu la diversité, la complexité de la démarche déjà très facilement dans cette soirée d'ouverture du jeudi 9 octobre, je rappelle, tant qu'on y est.
Oui, mais donc aujourd'hui, pour ceux qui écoutent la première édition. Alors, ça veut dire aussi que dans votre vision du dialogue au Festival des Libertés, c'est le dialogue avec l'autre. Mais alors, quand je vous entends parler à l'issue des différents documentaires, c'est le dialogue avec soi-même aussi.
Mais si on regarde l'origine étymologique du mot dialogue, moi je l'ai regardé quand on a choisi cette thématique, évidemment, c'est une des premières choses qu'on fait, mais c'est la parole qui traverse. Et c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire si on dialogue vraiment, on ne sort pas d'un dialogue comme on y est rentré. On a changé, on a été traversé par une altérité et ça nous change. Donc, oui, très probablement, il y a surtout un mouvement interne dans l'idée du dialogue, paradoxalement.
Alice Hulox, bah, vous parliez de cette fameuse soirée d'ouverture qui, si on regarde la programmation, a quand même un lien très fort avec le conflit israélo-palestinien actuel. Est-ce que vous avez réussi à sortir de justement cette actualité très chaude dans la programmation plus générale, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve en fil rouge sur l'ensemble?
Alors, oui et non, c'est-à-dire il n'y a pas de volonté de faire des génocides à Gaza la thématique du Festival des Libertés. Parce que ça n'a jamais été dans l'ADN du festival de se pencher sur un fait unique d'actualité. Par contre, quand on parle de l'état du monde, ben on se rend bien compte que c'est incontournable. Dans le climat actuel et dans la réalité très claire de ce qui se passe. On a un film, du coup je reviens sur la thématique, mais on a un film qui s'appelle Gaza Sound Men, qu'on projette en partenariat avec la Fédération internationale des droits humains, dont le vice-président est actuellement incarcéré parce qu'il était dans la flottille. Donc on espère qu'il sera de retour et puis on espère qu'il sera en bonne santé, bien sûr. Mais voilà, c'est la réalité très claire qui nous occupe aujourd'hui très clairement. Mais on reste attentif à l'état du monde en général. Et je disais, je pointais encore les quelques éléments dont on n'a pas encore parlé. Ben il y a évidemment la question migratoire sur laquelle on est toujours présent et présente. Enfin voilà, c'est quelque chose qui ça reste. Aujourd'hui, et ça pour le coup, ça se passe ici en Belgique, d'une aberration sans nom, ce qui se passe en termes d'accueil ou empêchement d'accueil. On a un gouvernement là qui en plus est en train de prendre des nouvelles mesures comme des visites domiciliaires complètement en deçà de la dignité humaine. Donc on est évidemment inquiet de la situation. Alors on va en parler à l'occasion d'une rencontre qui se tiendra le samedi, qui n'est pas au programme parce que ça a été rajouté parce qu'on a la chance d'accueillir Cédric Héroux dimanche, qui est donc un agriculteur paysan de la région de Roya, qui aide au passage des migrants sur la frontière italienne-française, qui sera présent. Et donc, c'est rajouté une rencontre en partenariat avec Belle Refugees, donc avec la plateforme des réfugiés, dans l'idée de s'adresser à un public plus large aussi. Et puis, on a un très, très beau documentaire qui s'appelle « J'en suis, j'y reste », qui est un documentaire qui suit un centre qui est, je pense au départ, plutôt un centre de rencontre LGBTQIA+, un centre militant donc, et qui petit à petit s'est intéressé à la question des migrants LGBT et qui les accompagne dans un système un peu de père aidance ou de binôme de personnes concernées l'obtention de la régularisation de leur statut par rapport aux discriminations qu'elles subissent dans leur pays d'origine. Donc ça, c'est... Et puis, on a aussi un autre documentaire qui, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça, c'est le jeudi 16, qui revient sur les les aides aux victimes de mutilations génitales. Donc oui, la question migratoire, elle est aussi encore abordée, la question des femmes, la question de la justice, parce que voilà, parce que ça fait partie de nos fondamentaux, question des droits des femmes sur Abortion Dream Team aussi, un excellent documentaire qui suit hein, une équipe de femmes polonaises qui aident à l'avortement. Alors c'est très impressionnant de voir quand même que pas si loin de chez nous, il y a des femmes qui dans l'illégalité vraiment contre vents et marées, aide d'autres femmes, c'est très, voilà, ça reste toujours très touchant. Et donc oui, vraiment les sujets, la thématique et celle du dialogue, les sujets du festival, que ce soit dans les documentaires ou dans les débats, restent quand même très très diverses. Probablement comme la scène musicale aussi qui va un peu dans tous les sens malgré tout, même si on sent qui a une identité, on sait que c'est au festival, il y a quand même une diversité, quoi.
Alors peut-être effectivement que ce volet-là du festival, le volet plus musical, est un volet moins en dialogue.
Ah bah il faut voir quand même un artiste et son public, ça dialogue bien, hein. C'est il y a quelque chose qui se passe dans une salle de concert qui se passe pas à l'écoute d'un album, ça c'est sûr. Une foule, ça change le tempo d'un musicien. Alors c'est à peine perceptible, hein, je pense, mais enfin voilà, c'est ça se démontre quand même facilement. Et puis il y a la programmation grande salle, bah, qui est quand même très relayée. C'est vrai qu'on en parle moins ici, parce que moi j'en parle moins parce que voilà, on le voit sur les affiches. Il y a déjà des concerts sold out, bien entendu, voilà. Mais il y a aussi la programmation gratuite en deuxième partie de soirée au niveau du bar, donc qui commence en effet par Sama Abdouladi jeudi soir, et qui est une programmation honnêtement, de plus en plus pointu. C'est vraiment on va chercher des artistes montants qui sont vraiment assez excellents dans leur domaine, qui pourraient tout à fait prétendre, pour certains en termes de fréquentation, qui pourraient tout à fait prétendre à la grande salle. Et puis, de toute façon, en général, qui émettent une ambiance. Et là, je peux vous dire que l'ambiance au bar, parce que c'est aussi une question de droit culturel, hein, d'accès à la culture. Je veux dire, c'est une vraie volonté d'avoir des concerts gratuits. Et qui soit de qualité, qui ne soit pas anecdotique. Donc il y a toute une série de publics qui ne vient que pour les concerts ou qui vient au débat et puis au concert. Enfin, je veux dire qui assiste aux activités gratuites sans problème, notamment des étudiants et des étudiantes. Bien sûr, ils sont bien nombreux. On le voit, le public rajeunit considérablement en deuxième partie. Et on est trop content parce qu'ils mettent une ambiance de fou, quoi. C'est vraiment, c'est le grand moment festif. Du festival, et puis c'est le moment de rencontre parce que on retrouve là le public qui est sorti de la grande salle, qui est sorti d'un débat, qui est sorti d'une projection. Et puis tout le monde, certains juste boivent un verre et essayent de discuter au-dessus des décibels. Mais ça va, ça se passe. Et d'autres sont en train de se déchaîner devant la salle. Et cette scène-là, comme elle est assez petite, les artistes sont assez proches du public. Et ça dialogue pas mal. Ça dialogue pas mal. Je veux dire, parfois on est un peu inquiet pour le matériel, mais ça dialogue bien.
Peut-être quelques moments que vous voudriez pointer justement dans cette deuxième partie de soirée.
Alors oui, bien sûr. Donc il y a alors on a un petit ovni qui s'appelle Comagatte, qui est une rappeuse italienne qui a un débit surhumain et qui est très qui est assez déjantée. Donc moi j'aime beaucoup cette proposition parce qu'elle est elle est un peu délirante, elle s'en prend pas trop au sérieux malgré qu'elle a un look très 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 calculé, millimétré. Voilà. Et puis il y a Bol qui vient aussi, il y a mercredi 15, et là je crois qu'on va attendre beaucoup de monde aussi. Il y a Camion Bip Bip qui vient, qui est un quatuor de musiciens musiciennes qui fait une musique féministe rageuse qui amuse beaucoup le public qui est là en général. Puis donc c'est une espèce de joie militante comme ça, très 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 expressive. Il y a juste Shani qui vient, c'est une super chanteuse de R&B, vraiment, elle est là, c'est très très balèze de l'avoir en free stage, tout comme Maraboutage qui a là un collectif, je crois que ça va être très très festif aussi, un collectif de DJ slash danseurs, danseuses marseillais, donc ce sont des Marseillais, des Marseillaises, mais qui mixe de l'électro avec chacun, chacune a un peu sa spécificité du monde. Donc il y a des influences un peu de partout qui se mixent dans quelque chose. Et puis il y a des danseurs qui viennent faire du vlogging. Et puis il y a du, enfin il y a vraiment, c'est une espèce de grande. Ils sont 9 sur scène. C'est une espèce de grande fête comme ça, assez irrésistible. Donc ça, je pense que ça va bien donner aussi. Et puis la clôture, bien sûr, on a Don Letts qui vient. C'était une légende du dub reggae qui était le premier à mixer du reggae et du punk, figurez-vous. Voilà. Donc oui, très certainement sur la petite scène, il y aura encore bien des moments bien festifs. Faut pas hésiter à venir assez tôt pour parce qu'on a quelquefois ces dernières années, ces 2-3 dernières années, c'est arrivé qu'on doit fermer les portes du théâtre parce qu'on avait trop de monde, ce qui est cool, mais en même temps voilà, du coup ça veut dire pour les concerts petite scène, comme il y a des gens qui ne viennent que pour ça et puis qu'il y a la grande, enfin voilà, c'est ça vaut la peine de venir tôt.
On a parlé débat, on a parlé docu, on a parlé concert, mais le Festival des Libertés, ben c'est aussi l'occasion d'aller voir des expositions.
Oui, il y a toujours au moins 2 artistes qui sont exposés au niveau du bar. C'est aussi, ça c'est en permanence évidemment. Il y a Emotions of Protest qui est une expo de Yoongi Kim qui est une américaine donc et qui a photographié les mouvements de protestation aux États-Unis. Ce sont des photos de personnes en mouvement, en action, militantes, activistes. C'est très prenant parce que c'est aussi très compréhensible, très facile à la lecture, quoi. Et donc, en plus, on est très chanceuse et chanceux parce que elle sera présente et elle va être là pour un Q&A le samedi. Elle sera là pour répondre aux questions du public au niveau du bar aussi. Donc ça va être quand même, c'est chouette parce que c'est nouveau. Donc on est content et contente aussi d'expérimenter ça. Et puis il y a No Woman's Land, un regard intime sur la situation des droits des femmes en Afghanistan, de Mélissa Cornet. Donc ça c'est un, je crois que tout est dans les titres, mais il y aura aussi pas mal de documentation aussi à consulter. Donc il y a pas mal de contenu autour de cette invitation, proposition. Elle sera présente aussi et peut-être en visite guidée, mais ça on annoncera sur les réseaux sociaux. Et puis on a cette année, si je peux rajouter quelque chose, des petites surprises. On a préparé des petites surprises qui ne sont pas au programme, mais qui sont des surprises un petit peu itinérantes. Peut-être qu'il y aura des prises de parole à un moment inattendu, dans un endroit inattendu. Bon, a priori pas dans les toilettes, hein, on est d'accord, plutôt dans un endroit public. Mais voilà, ça je vous en dis pas plus parce que l'idée est plutôt de surprendre un peu le public, mais cette année on a envie de tester un peu des propositions, je dis tester mais ça a été fait il y a très longtemps au Festival des Libertés aussi, mais avant qu'il ait cette ampleur-ci quoi. Donc on revient à quelque chose qu'on avait expérimenté il y a plus de 15 ans, mais qui avait ce peut-être cet atout d'interpeller, de surprendre un petit peu le public. Et évidemment, vous vous doutez bien que parmi ces propositions, ben, il y aura aussi une partie qui sera axée sur la question du dialogue.
Du dialogue spontané, pour le coup.
Pour le coup, du dialogue spontané, médié néanmoins par une proposition artistique, mais de l'expression tous azimuts. Je vous en dis pas plus.
Merci beaucoup. Alors, on ben, pour clôturer toutes les infos pratiques, les dates, le lieu, les places, tout.
Donc ça se passe du 9 au 18 octobre au Théâtre National, boulevard Émile Jacquemin, donc près de la place de Brocker. L'entrée au festival est totalement libre. Il y a des prix d'entrée sur les concerts et sur le théâtre. On est bien sûr éligible aux articles 27 aussi. N'hésitez pas à écrire là-dessus. Et puis on essaye de rendre les choses le plus accessible possible. Les documentaires sont à 6€. Et puis, on a toujours la bière à 2€. C'est un petit peu, on est peut-être un des derniers festivals qui arriveront encore à la tenir comme ça, mais voilà. Et bien sûr, on vend des softs aussi. Hein, mais voilà. Donc, du 9 au 18 octobre, Festival des Libertés sur Internet, sur les réseaux sociaux. On a maintenant un site Internet qui fonctionne mieux sur smartphone, donc ça devrait être encore plus accessible. Et puis, je dis souvent ça à propos du Festival des Libertés. Retenez juste que c'est du 9 au 18 octobre et en fait venez un soir où vous êtes libre, ou une après-midi si c'est le week-end, et puis vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous plaît. Il y a une septantaine d'activités sur 10 jours, il y a vraiment de quoi faire. Donc faut pas hésiter à venir aussi au petit bonheur la chance, comme disait ma grand-mère.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Alice Willox de m'avoir accordé cette interview. Je vous rappelle donc que le Festival des Libertés démarre aujourd'hui, le 9, pour ceux qui écoutent la première version de l'émission. Si c'est la rediff, ben c'était hier. Enfin, soit. Hein. Et ce court jusqu'au 18 octobre au Théâtre National. Et voilà, toutes les infos, eh bien, je vous renvoie vers le site, évidemment, du Festival des Libertés. Voilà, et n'hésitez pas, vous l'avez entendu, hein, à passer le nez par là-bas. Ça vaut vraiment la peine, que ce soit pour un débat, pour un concert gratuit, pour une discussion au bar, pour un film, pour un concert. Enfin, voilà, hein, le Festival des Libertés, un lieu très conseillé. Alors, il me reste, eh bien, à vous souhaiter à toutes et tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What